France Info.
Justement, ce débat autour d'intellectuels à l'Élysée. Bonsoir Thomas Negaroff.
Bonsoir Nicolas.
Emmanuel Macron débat depuis plus de deux mois maintenant avec des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des étudiants, autant de catégories qu'on identifie a priori plus facilement que celle d'intellectuels.
Oui, une catégorie effectivement difficile à définir. Et d'ailleurs, cette question-là, c'est quoi un intellectuel ? Eh bien, en 1934, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes se l'était posé. C'était quoi un intellectuel ? Qui pouvait en faire partie ? On avait évoqué à l'époque un niveau d'études, de diplôme, un nombre de livres écrits. Et finalement, on s'était mis d'accord sur l'engagement dans la cité. Alors, la figure de l'intellectuel, le mot même qui dépasse, et de loin, bien sûr, la simple séparation entre le métier manuel et le métier intellectuel, elle est née, cette notion, d'un engagement politique, celui d'Émile Zola, et sa défense de l'innocence de Dreyfus avec le fameux J'accuse, le 13 janvier 1898 dans l'Aurore. On a tout ce qui fait l'intellectuel ici, un grand écrivain, Émile Zola, une cause politique, l'affaire Dreyfus, et une diffusion très large du message, ici, un quotidien à grand tirage, l'Aurore.
Et pendant une bonne partie du XXe siècle, l'intellectuel devient une figure indépassable dans le débat politique français.
Oui, et d'ailleurs, trop pour Julien Binda, qui dès 1927 critique durement les intellectuels dans un livre très célèbre, La trahison des clercs. Des intellectuels, selon lui, trop engagés dans les querelles idéologiques, ils auraient perdu leur place étant au-dessus de la mêlée pour éclairer les consciences. Il prône, Binda, un retrait de l'intellectuel du champ de l'engagement partisan. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne sera pas vraiment écouté. On a parlé des intellectuels antifascistes des années 30, on pourrait parler de Brasillac ou de Drieu-La Rochelle, intellectuels fascisants basculant pendant la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et après la Seconde Guerre mondiale, la figure de l'intellectuel devient confisquée pratiquement par la gauche.
Oui, un terme s'impose, les compagnons de route, ces intellectuels qui accompagnent le Parti communiste, son soutien à l'URSS et la haine de l'impérialisme américain. Et dans ce monde, une figure se dégage évidemment, celle de Jean-Paul Sartre, qui voulait, je le cite, que les intellectuels et le peuple ne fassent plus qu'un. Face à Sartre se lève son ancien compagnon de Normale Sup, Raymond Aron, avec qui il se fâche dès 1947. Raymond Aron revient 30 ans plus tard, en 77, sur leur rupture et sur la cécité de son ancien ami.
Il déteste tellement la société bourgeoise et il n'a pas vu que la société soviétique comportait toutes les tares de la société bourgeoise, plus un certain nombre de tares supplémentaires. Il a glissé au compagnonnage avec le Parti communiste et il l'a fait à l'époque du stalinisme, ce que je trouvais absurde, c'était déraisonnable.
Et quelques années plus tard, l'effondrement du communisme et des grandes idéologies va marquer le début non pas de la disparition, mais de l'affaiblissement de la figure de l'intellectuel dans le débat.
Oui, c'est un peu ce que disait Abdelmalik tout à l'heure. Hein. Clairement, on est entré depuis une trentaine d'années dans une ère de profonde défiance envers les intellectuels, accusés d'avoir aveuglé le peuple, dont ils devaient censément ouvrir les yeux, accusés ensuite pour certains d'entre eux, les plus médiatiques notamment, de servir les pouvoirs en place pour conserver la leur de place, et aujourd'hui accusés d'appartenir aux élites tant décriées, d'où la difficulté peut-être de les intégrer dans un débat national qui s'est construit précisément à un moment de rejet des élites, l'occasion en tout cas pour les intellectuels, s'ils parviennent à trouver la bonne distance vis-à-vis du pouvoir, de revenir enfin peut-être au cœur du débat politique.
Tiens Thomas, je rebondis une seconde sur les propos d'Abdelmalik, je résumais ça par un c'était mieux avant, mais où sont les Sartre, les Bourdieu, les Foucault? Est-ce qu'il y avait réellement à l'époque contemporaine de ces penseurs une idée que le peuple allait suivre ce qui était dit?
En tout cas, c'est ce que les intellectuels prétendaient. On se souvient par exemple de Jean-Paul Sartre en 70 devant Billancourt, devant Renaud, sur un tonneau, et qui dit, nous sommes du même monde, vous et moi l'intellectuel, je viens avec vous parce que nous avons à travailler ensemble pour ne faire plus qu'un. En tout cas, c'était davantage, à mon avis, une prétention des intellectuels que du peuple, mais c'est vrai que c'est très enraciné dans notre culture politique française.
Et est-ce qu'il n'y a pas une image qu'on a un peu glorifiée les années passant?
C'est vrai qu'on a tendance après à avoir un peu idéalisé la figure de l'intellectuel, même si ce que j'évoquais, la cécité de l'intellectuel a aussi été, à mon avis, l'un des facteurs de son déboulonnage, de cette statue de commandeur de la République et des hautes valeurs républicaines, puisque le début étant l'affaire Dreyfus, il y a quand même une image extrêmement forte de la figure de l'intellectuel en France.
L'info par l'histoire, tous les soirs dans le 17-20 avec Thomas Negaroff.